Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. La Fondation Bill Clinton pour la paix dénonce la surpopulation et les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Kinshasa. Par exemple, la prison de Makala, dont la capacité d'accueil est de 1500 pensionnaires, héberge aujourd'hui plus de 11 000. Cette structure de la défense des droits de l'homme dénonce également des cas de malnutrition. On en sait un peu plus sur les circonstances du naufrage d'une baleinière survenue lundi dans le territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï, sur la rivière Sankourou. Sur les 120 passagers inscrits sur le manifeste, seules une cinquantaine ont survécu, tandis que les autres sont toujours portés disparus. Une délégation du HCR s'est rendue ce lundi à Kananga. Cette mission avait pour objectif de remettre des titres fonciers à des réfugiés congolais retournés d'Angola, ainsi que des maisons déjà construites pour certains ménages vivant sur les sites d'un coco. Pour en parler, Radio Okapi reçoit Abdourahouf Nonkonde, directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui a conduit cette délégation. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal du matin sur la radio de la paix. La Fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP, tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce la surpopulation et les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Kinshasa. Dans un rapport publié hier mercredi, l'organisation dresse un tableau inquiétant des prisons de Makala et Ndolo. Selon Emmanuel Collet, coordonnateur de la FBCP, la prison centrale de Makala accueille actuellement 11 404 détenus, alors que sa capacité d'accueil est de seulement 1500 personnes. Il dénonce également des cas de malnutrition, des lenteurs judiciaires et d'autres problèmes graves qui affectent ces établissements pénitentiaires. Je vous propose d'écouter Emmanuel Collet dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons constaté les surpopulations parce que si je ne me trompe pas avec l'ancien ministre d'État Constant Mutamba, les chiffres étaient descendus jusqu'à 8000 quelques, mais même pas 5 mois. Et voilà, nous sommes dépassés 11 404. Donc voilà, vous voyez, il y a une surpopulation énorme. Donc tout ça là, c'est lié à la lenteur, à des procédures judiciaires. Donc, j'espère que le conseil supérieur de magistrature, il doit vraiment taper sur les tables. D'abord, commencer par eux-mêmes de vraiment respecter le verdict qui est prévu par la loi. Parce que nous avons constaté que on ne respecte pas les durées de verdicts. Ça va aussi faire en sorte que il y a la surpopulation. Après aussi, les arrestations arbitraires au niveau du parquet qui ne respectent pas les durées officier des dossiers au niveau du tribunal.
Toujours à Kinshasa, la justice militaire pourra mieux conserver et sécuriser ses données judiciaires. Pour renforcer la gestion et l'archivage des dossiers, la section d'appui à la justice de la MONUSCO a remis ce mardi du matériel informatique à l'auditorat général des forces armées de la RDC. Il s'agit des deux ordinateurs et des deux imprimantes scanners multifonctions de haute performance. Après la haute cour militaire de Kinshasa, c'est la deuxième instance judiciaire militaire à bénéficier de cet appui dans la continuité des actions déjà menées, notamment auprès des juridictions militaires de Beni et de Bounia. Raphaël Anouche, expert en investigation numérique à la MONUSCO, présente les performances de ces équipements au micro de Lucky Nzao.
Le matériel est composé de deux stations de gestion électronique de documents, composées chacune d'une imprimante scanner et d'un ordinateur all-in-one très performant qui vont permettre la numérisation des différents documents et le scannage, la solution qui a été donnée pour l'auditorat général des FARDC. Ce matériel constituera une base unique pour la numérisation des dossiers judiciaires au niveau des auditorats, que ce soit au niveau de la capitale ou bien au niveau de l'Est. Donc il permettra permettra aussi un accès unifié et sécurisé avec une traçabilité de toutes les opérations qui se feront au sein de la base de données. Le serveur sera ici au niveau du siège, au niveau de l'auditorat général. C'est le serveur qui va collecter et corréler toutes les données qui seront au niveau des AMS. Et les stations, ils seront au niveau des autres juridictions, à savoir les auditorats militaires supérieurs et les auditorats militaires de garnison. Donc, cette initiative s'inscrit toujours dans l'effort de la MONUSCO pour appuyer la justice militaire, pour assurer la transparence et l'efficacité des transactions judiciaires.
On en sait un peu plus sur les circonstances du naufrage d'une baleinière survenue lundi dans le territoire d'Ilebo, dans la province du Kasaï, sur la rivière Sankourou. Selon la société civile locale, l'accident aurait été causé par une surcharge de l'embarcation qui a chaviré après avoir heurté un tronc d'arbre. D'après François Manetto, sur les 120 passagers inscrits sur le manifeste, seuls une cinquantaine ont survécu, tandis que les autres sont toujours portés disparus. Je vous propose de écoutez François Manetto, joint par André Katende Ngalamurume.
La baleinière quittait déjà Sankourou vers Kasaï. C'est juste de passer longue. Cette baleinière qui transportait 120 passagers avec certaines marchandises a vraiment connu un naufrage là. Et jusque-là, on a retrouvé presque 50 tonnes de personnes. J'étais devant un rescapé qui est resté à Bambangue sur place là. Alors la baleinière a connu vraiment, c'était connu sur un arbre. En dessous de l'eau là, c'est ainsi qu'il y a eu naufrage. Et la baleinière avait transporté beaucoup de personnes avec des marchandises. L'erreur, c'était seulement l'erreur d'embarquement. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens et au-dessus et à l'intérieur. Donc, c'est ainsi que le fait seulement de monter un peu seulement sur cet arbre-là, il y a eu maintenant déséquilibre, c'est ainsi qu'il y a eu naufrage.
Revenons à Kinshasa pour parler du contrôle technique des véhicules avec ces SOS de la population de la capitale. En tout cas, les Kinois appellent le gouvernement congolais à la mise urgente sur terrain de bus pour soulager leur peine face aux difficultés de transport. Après le début de contrôle des permis de conduire mardi, c'est au tour du contrôle technique des véhicules hier mercredi. Et ces opérations causent la rareté des transports en commun non en règle. Dans l'entretemps, des Kinois éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer entre rareté et augmentation des prix de la course. Du rond-point Upen dans la commune d'Engalema par exemple, et aussi à l'arrêt Sosimat en prolongeant jusqu'à la gare centrale à la Gombe, en passant par Kitambo Magasin, la police ainsi que des contrôleurs et inspecteurs de transport de l'hôtel de ville sont déployés sur ces différents points. Notre équipe s'est rendue sur ces différents carrefours. Reportage de Lukinzao et Naomi Mutoki.
Dans ces opérations, la police s'occupe à contrôler les permis de conduire, tandis que les contrôleurs, comme c'est écrit sur leur chemise, s'affairent au contrôle technique des véhicules. Des tronçons sont évidemment dégagés des véhicules non encore en règle, c'est-à-dire ils ne sont pas encore entrés en possession des documents exigés. Sur ces différents points que nous avons fréquentés, les transports en commun sont rares, certains sont déjà saisis pour manque de pièces. Du côté de la population, la difficulté persiste. Certains pensent que la mise à la disposition des bus de l'État serait un salut. Josaphat Ngonde fait cette demande au gouvernement.
Avec les transports, c'est mieux. Ça va rendre accessible les transports faciles si on apportait les nouveaux bus et si les routes seraient finies. Je pense que le président doit penser à ça, le gouvernement doit penser à ça.
Certains conducteurs non en règle pensent que ces opérations sont venues rajouter une couche à d'autres difficultés, notamment des routes. Pour Osamanta en parle.
Nous avons garé les véhicules car les contrôles est vraiment sérieux. Avec des barrières placées à différents endroits, c'est ainsi que nous ne savons pas aller au centre-ville. En dehors de cela, certaines routes se sont dégradées. J'ai pu embarquer des passagers pour les boulevards du 30 juin, mais je serai obligé de les débarquer en chemin parce qu'il y a trop de bouchons, les routes sont bloquées.
La population kinoise que nous avons rencontrée dit s'attendre à une amélioration de la situation.
Dans le territoire de Nirangongo Nord Kivu, les pluies torrentielles de ces dernières semaines ont gravement endommagé les champs agricoles. Des dizaines d'hectares de cultures de maïs, haricots, pommes de terre, choux et autres sont détruits, laissant de nombreuses familles paysannes sans moyens de subsistance. Denis Luque Somapanda nous en parle.
Selon les agriculteurs, l'érosion accélérée par les sols volcaniques a emporté une partie des terres cultivées, tandis que les eaux stagnantes font pourrir les plantes encore debout. Ils craignent désormais une hausse des prix sur les marchés et une insécurité alimentaire imminente. Pour ces agriculteurs de Moudja, les pertes agricoles sont énormes.
Il pleut abondamment. Les haricots sont détruits sur cette colline, d'autres pourrissent. On ne sait comment sera la récolte. Nous ne savons comment nous comporter.
La pluie a tout détruit. Les maïs, les haricots, l'arachide ne tiennent plus debout. Nous comptions sur cette récolte pour nourrir nos enfants. Maintenant, nous ne savons plus quoi faire. Sur le marché, il y aura carence de maïs. Le prix va grimper à cause de la rareté.
Pendant ce temps, les agriculteurs de Niragongo vivent dans la crainte des nouvelles averses qui pourraient encore anéantir leurs espoirs de relance. Ils plaident pour une distribution des semences pour la prochaine saison culturelle.
Et puis, l'organisation internationale spécialisée sur la gestion des catastrophes, dénommée Star Network, organise depuis hier mercredi à Kinshasa une formation de 3 jours sur la bonne gestion des catastrophes en faveur de la presse congolaise. Les journalistes d'une vingtaine de médias du pays y participent. L'objectif étant pour l'organisateur mieux faire connaître cette notion de catastrophe aux professionnels de l'information afin que, à leur tour, aident les populations à minimiser l'impact des catastrophes au pays. Un récit de Donna Madimbambaya.
Les catastrophes, selon une cartographie de l'organisation Stat Network, sont une trentaine qui sévissent régulièrement en RDC. Les inondations, les tempêtes, vents violents et éboulements de terrain qui s'abattent plus à l'ouest, centre et sud du pays, mais aussi les guerres, insécurité, sécheresse, déforestation, éruption volcanique, séisme, qui, en plus des 3 premières cités, sévissent, elles, beaucoup plus dans la partie est de la RDC. Limiter leurs impacts, c'est d'abord connaître ces informations, leurs causes, comment les prévenir à défaut de les éviter totalement, installer un suivi, une surveillance permanente et prévoir les financements pour toute cette mise en place. Il faut donc former les populations à tout cet état d'esprit et l'un des moyens sûrs d'y arriver efficacement est de sensibiliser suffisamment les journalistes à ces compétences afin qu'eux-mêmes, à leur tour, le fassent efficacement auprès des populations à travers leur capacité régulière de les influencer positivement. Tout cela est la conviction profonde de Stat Network qui organise la dite formation de 3 jours pour la presse de la RDC.
En Ituri, près d'une centaine d'enfants ont abandonné l'école depuis le début de ce mois de novembre dans le territoire de Mambasa. Dans son rapport de monitoring publié ce mercredi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre, l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, la CRDH, alerte. Cette déperdition scolaire serait liée aux activités de ramassage et de vente des sauterelles. Une situation qui expose ces enfants à la délinquance juvénile, prévient l'organisation. Martial Kiza Biamungu.
Chaque nuit, des centaines d'enfants, parfois accompagnés par leurs parents, parfois seuls, sillonnent le riz et quartier de Mambasa, centre à 165 km au sud-ouest de Bounia, pour ramasser les sauterelles, communément appelées manionio. Les ramassages de ces insectes nutritifs et riches en protéines constituent non seulement une source de nourriture occasionnelle pour de nombreuses familles, mais aussi un véritable commerce pour certains habitants. Mais cette activité particulièrement attractive pour les enfants perturbe gravement leur scolarité. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, la CRDH, tire la sonnette d'alarme et appelle les parents à assumer pleinement leurs responsabilités. Rams Maliki Dogo de la CRDH Mambasa.
Alors lorsque les enfants sont en train de passer nuit à la belle étoile en train de ramasser les sauterelles, ils courent beaucoup de risques. Nous venons d'enregistrer une centaine d'enfants qui venaient d'abandonner les chemins de l'école. Ils sont en train de passer jour et nuit en train de ramasser les sauterelles. Nous interpellons vraiment les autorités de pouvoir s'y impliquer.
À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée le 20 novembre, la CRDH annonce une campagne de sensibilisation en faveur du respect des droits à l'éducation pour tous les enfants. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, toutes les activités scolaires et sanitaires ont été suspendues ce mercredi au centre Simama de Kisangani. En cause, l'érection anarchique
vendues par des personnes non encore identifiées, des kiosques pour le commerce dans la servitude latérale gauche de cet établissement, lequel œuvre pour l'encadrement, la rééducation et l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap. Les pensionnaires et les responsables de ces centres demandent aux autorités politico-administratives de faire respecter l'état de droit. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Les travailleurs du centre Simama et les élèves ont abandonné leurs activités pour observer un sit-in à l'endroit où les travaux sont amorcés. C'est dans la servitude latérale gauche, longée par le boulevard Lumumba récemment asphalté. Selon le directeur de ce centre, le révérend frère Pascal Baragata, les activités entreprises en ces lieux sont incompatibles avec celles du centre Simama.
Il y a certains qui vendent déjà les boissons fortement alcoolisées, d'autres la cigarette, l'autre les chanvres. Alors nous trouvons que ça marche vraiment à l'encontre de toutes nos activités que nous organisons ici, qui sont l'école pour les handicapés mentaux, pour les handicapés physiques, et les soins de kiné et de neuropsychiatrie.
Les commanditaires de ces travaux ne sont pas encore identifiés. Qu'à cela ne tienne, l'avocat conseil de l'archidiocèse de Kisangani, l'abbé Jean-Paul Makelele, pense que la RDC étant un état de droit, le gouvernement ne devrait laisser quiconque violer les droits d'autrui.
L'État doit empêcher à ces personnes de venir violer les droits du centre SIMA, mais surtout de venir protéger ces personnes qui sont soignées, qui sont formés ici. Il y a des activités qui ne cadrent pas avec la moralité, qu'on remette la morale, qu'il y ait les centres de travail.
Afin de permettre au centre de fonctionner normalement, ces responsables n'hésiteront pas à saisir les juridictions judiciaires compétentes si nécessaire, déclare le révérend frère Pascal Baragata. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les CAF Awards 2025 ont, sans surprise, sacré Achraf Hakimi comme meilleur joueur africain de l'année ce mercredi. Le défenseur du PSG, qui a presque tout gagné en club, a été récompensé de sa saison exceptionnelle.
L'invité.
Une délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés s'est rendue ce lundi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Cette mission avait pour objectif de remettre des titres fonciers à des réfugiés congolais retournés d'Angola, ainsi que des maisons déjà construites pour certains ménages vivant sur les sites d'Nkoko. Abdourahouf Nonkonde, directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui a conduit cette délégation, est l'invité du journal. Il s'entretient avec André Katinde Ngalamulome.
Monsieur Abdourahouf Nonkonde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé à Kananga ce jeudi 17 novembre 2025 à la tête d'une grande délégation. Qu'est-ce qui vous amène au chef-lieu du Kasaï central?
C'est ma première visite dans la région du Kasaï et je suis très heureux de pouvoir commencer cette visite par une très belle histoire. Parce qu'il m'a été raconté, il m'a été dit que cette région a été affectée par une situation de conflit dans les années 2016, 2017, 2018 qui a provoqué le déplacement massif de près de 1 300 000 populations. Mais aujourd'hui, près de 9 ans après cette tragique histoire, comme je le disais à l'entame de mon propos, je suis content d'être là parce que avec le travail du HCR, le travail des autorités, le travail du gouverneur qui était présent tantôt avec nous à cette cérémonie, sans compter le travail des autorités locales, on se rend compte que on peut construire une belle histoire à partir d'une tragédie. Et pour moi, malheureusement, au moment où on est en train de quitter cette région, au mois de décembre, c'est de savoir, en partant, en étant rassuré que on a pu laisser quelque chose de solide. Solide, qui permet d'aller dans le sens de la paix, de la reconstruction, de la cohésion et de la coexistence pacifique. Et c'est ce que je retiens de cette cérémonie que nous venons de vivre avec son autorité, monsieur le gouverneur, où on a procédé à la remise de titres fonciers pour les quelques populations qui sont installées ici grâce à la générosité démontrée par l'autorité coutumière.
L'UNHCR veut quitter la région, comme vous l'avez dit en décembre, alors qu'il y a encore des gens qui ont besoin des services de l'UNHCR. Comment vous comptez vous y prendre?
En fait, en réalité, on va quitter la région, mais on ne part pas. On va travailler différemment, à travers des partenaires locaux qui ont été capacités, qui ont été formés et qui vont toujours rester avec les populations. Nous partons nous restons parce qu'il y a encore du travail à faire à côté des autorités. Donc, quand je dis nous partons, on n'a pas de bureau, on n'aura plus de bureau, mais on va avoir des partenariats et régulièrement nous serons ici pour faire le suivi de tous ces projets.
Alors dites-nous, sur ces sites, il n'y a que certains ménages qui ont réussi de maison. Qu'est-ce que vous promettez au reste de ménages qui ont su besoin de maisons comme les autres?
Alors les maisons qui ont été construites, c'est sur la base d'un financement qu'on a reçu. Et il était bon de venir voir comment ça marchait. Et on peut espérer que les bailleurs satisfaits de ce type de solution, de cette offre de solution, vont continuer à financer. Et comme on le disait, la capacité, l'expertise, elle reste. Donc on pourra donc penser à ceux qui n'en ont pas encore reçu.
En dehors de ces maisons, la population n'a pas d'école, de centre de santé. Comment vous pensez venir cette population en aide?
Alors, j'aurais dû peut-être préciser que cette localité, nous la considérons comme un pôle de convergence. Il n'y a pas que la maison. Il y a tout ce qui participe à renforcer l'accès aux moyens d'autonomisation. Et bien sûr, l'accès aux services sociaux de base. C'est dans un package. Et tout ça est en train de se poser progressivement. Mais nous pensons que la maison, elle permet de stabiliser, d'apporter l'espoir. Donc c'est le point de départ vers des solutions davantage plus grandes.
Disons merci.
Je vous remercie.
C'était notre invité Abdourah Non Kondé qui s'entretenait avec André Katinde Ngalamouloumé. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal coordonnée par Vicky Odia, supervisée par Polly Mouzalia et la mise en onde était assurée par Billy Landry Betou. Ce journal est encore disponible sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.